All right, now listen, kids. Come on, places, please. It's Boogie Barker Road from the top, and I'll do it with you. Ready? Music! Now give me some nice straight lines, please. Go!
1, 2, 3, 4.
Corps et danse au cinéma, un podcast présenté par le BTS audiovisuel du lycée des Arènes.
1 and 2 and.
Épisode 4, la danse dans la fiction. Quand on pense aux prémices du cinéma, on pense à la photographie, au théâtre, mais il y a un art qui est lié depuis toujours, la danse. Étant tous les deux liés au mouvement, en passant par l'intime lien que les deux disciplines entretiennent depuis maintenant 120 ans, danse et cinéma n'ont jamais cessé de se faire écho. Au commencement du siècle dernier, de nombreux films des Frères Lumière mettent en scène des danses exotiques alors que la Gaumont réalise une grande majorité de ses films sur la danse entre 1900 et 1902. Les images font désormais partie du patrimoine cinématographique et montrent que la danse fut au cœur des expérimentations des pionniers du cinéma. La caméra reste fixe, le mouvement émane de l'artiste qui danse, et c'est déjà un miracle. Une relation est née et elle va perdurer pendant encore plus d'un siècle. La première moitié du XXe siècle nous amènera à l'âge d'or de ce qui viendra le genre dominant de l'époque, la comédie musicale. Et des années 30 aux années 50, jouer dans une comédie musicale, c'est avant tout être un performeur. Être capable de chanter, danser et jouer de la comédie sont autant de cordes à l'arc des acteurs et des actrices les plus prisés d'Hollywood. On pense à Fred Astaire, poulain de la RKO à l'époque, ainsi que sa partenaire à l'écran Ginger Rogers, mais aussi à Gene Kelly ou encore Berkeley. Aujourd'hui, le cinéma continue de nous immerger dans les coulisses de la danse et de ses troupes. C'est pour cela que le film Billy Elliot, sorti en 2000 et réalisé par Stephen Daldry, est un bon exemple sur lequel on peut s'appuyer. Le jeune Billy Elliot vit dans une petite maison avec sa grand-mère, son père Jackie et son grand frère Tony. Leur cité ouvrière, Everington, est en état de siège. La police barricade les rues en attente de la grève de mineurs à laquelle Jackie et Tony participent activement. Pendant ce temps, Billy y va à son entraînement de boxe, mais il n'est pas très doué et se trouve bien plus attiré par le cours de danse classique de Madame Wilkinson. Il commence à suivre régulièrement le cours en cachette. Son père le surprend et lui interdit d'y participer. La danse classique n'est pas une pratique pour les garçons. Mais la professeure persuadée que Billy a du talent veut le faire participer aux auditions du Royal Ballet et de Londres auxquelles il ne pourra plus participer par manque d'argent. À Noël, désespéré, Jackie se saoule avec des camarades de lutte et surprend Billy qui apprend son meilleur ami homosexuel quelques figures de danse. L'enfant fait alors une démonstration virtuose qui bouleverse le père. Jackie décide de reprendre le travail pour financer l'audition. Quelques temps plus tard, les résultats arrivent, l'enfant a été accepté. Il quitte Everington au moment où tous les mineurs redescendent au charbon et se crée une carrière de danse étoile à Londres. Nous allons voir dans ce podcast comment la danse sert une œuvre audiovisuelle. Ici, celle de Billy Elliot. Dans un premier temps, nous verrons l'implication du spectateur et de la caméra dans les scènes de danse. Dans une deuxième partie, nous aborderons la danse comme un moyen d'expression et pour finir, comme un combat politique.
Après une dizaine de minutes dans le film, et après avoir assisté à son premier cours de danse, on retrouve Billy sur le bord d'une route, après une courte discussion avec Madame Wilkinson. Il tient alors un bâton avec lequel il joue de différentes manières. Il s'en sert pour frapper dans les airs, puis le laisse tomber à la verticale comme une canne. Le plan est alors fixe, et sa durée, singulière. Elle attire l'attention sur l'aspect chorégraphique que l'enfant imprime spontanément à ses gestes triviaux. Par-dessus cette action, on entend la musique du numéro intitulé Top Hat du danseur du dessus. Cette musique sert alors d'introduction à l'extrait montrant des images d'archives de Fred Astaire. On comprend alors que le bâton de Billy est une version pauvre de la canne utilisée par le danseur pour sa scène de claquette. À quoi servent les ralentis dans Billy Elliot? C'est un procédé que l'on remarque à deux moments bien spécifiques, étant donné qu'il s'agit du générique de début, avec les bonds de l'enfant sur ce que l'on suppose être son lit, et lors du final, avec le lac des cygnes, où le saut du Billy plus âgé est décomposé en plan ralenti, afin de raccorder sur une reprise des bonds sur le lit. En même temps qu'il permet de mieux voir une action, le ralenti a tendance à l'harmoniser, à aplatir les rugosités et les à-coups des mouvements, et y injecter ainsi un supplément de beauté chorégraphique. Cependant, la fonction du ralenti ne s'arrête pas là. Il y a d'autres occurrences, bien moins facilement perceptibles, au cours de Billy Elliot. Lorsque Billy est mis à terre d'un uppercut, lorsqu'il s'exerce à faire des pirouettes, lorsqu'il assiste à la dispute entre Tony et Jackie et à l'arrestation de Tony. C'est autant de moments durant lesquels on pourra alors remarquer les nombreuses émotions de Billy avec détail. On va désormais travailler un peu plus spécifiquement sur une séquence particulièrement significative, autant dans l'évolution psychologique de Billy que dans la vision qu'a son père sur son fils. Cette séquence, c'est celle dans laquelle Jackie le découvre en train de danser avec son meilleur ami. La manière dont cette séquence est filmée met Billy et son père au même niveau. Au départ, les contre-plongées isolent Billy et son meilleur ami dans deux cadres différents, mettant le père en situation de supériorité. Isoler chaque personnage, les intégrant chacun dans leur propre plan large. De cette manière, ils sont non seulement seuls dans un cadre très large, mais ils sont également coupés l'un de l'autre par l'impossibilité physique qu'a le spectateur d'observer les deux en même temps. Leur isolation sert alors le propos implicitement, entretenant la discorde à laquelle ils prennent part.
Dans Billy Elliot, le récit d'apprentissage moral, qu'il soit affectif ou sexuel, est inséparable d'un drame plus vaste, ici les grèves des mineurs. Une situation que l'enfant vit sans comprendre tout en étant au milieu des événements, secoué par ses propres émotions. Son titre l'annonce, Billy est au cœur du film. Un peu à la manière d'Antoine dans Les 400 coups de François Truffaut, Billy est un jeune garçon débordant de vitalité, dont l'énergie et sa volonté passent au-dessus des obstacles familiaux et sociaux. L'ambition du film est justement de croiser sur le même personnage plusieurs niveaux de crise et d'émancipation. Billy n'a pas au départ de plan pour devenir danseur ou de désir d'explorer d'autres possibilités amoureuses que celles définies par l'hétérosexualité, ou encore la volonté de sortir de sa classe sociale. Tout cela arrive à cause de certains élans que Billy ne retient pas. Ses crises s'expriment lorsqu'il fuit, incompris par sa famille qui refuse d'envisager que Billy devienne danseur. Le film traite la question d'un fils de mineur qui veut échapper à son destin social. C'est alors le corps de Billy qui devient l'expression et l'outil constant de sa résistance à un destin tout tracé. Il devient également un moyen pour le jeune garçon de s'émanciper, même si au départ il ne s'en rend pas vraiment compte. C'est d'ailleurs la professeure de danse, Madame Wilkinson, qui lui parle du moyen d'expression du corps pour la première fois.
Non, écoute, ce qui les intéresse, c'est pas ta science du ballet, ça. Ils sont là pour te l'apprendre. C'est une école de danse. Ce qui compte, c'est comment tu bouges, ce que tu exprimes avec ton corps. C'est ça l'important.
À 1h26, presque à la fin du film, nous serons témoins de l'évolution de Billy, qui a compris pourquoi il dansait.
Ça me fait plutôt du bien. Au début, je me sens un peu raide. Mais quand je suis lancée, alors... j'oublie tout le reste. Et... c'est comme si je disparaissais. J'éprouve comme un changement dans mon corps. Et... une sorte de feu dans tout mon corps. Je suis simplement là. Je vole. Juste comme un oiseau. Ou comme de l'électricité.
La séquence dansée la plus forte du film est sans doute celle où Billy quitte brusquement la maison et la dispute des adultes pour décharger sa colère d'abord dans l'arrière-cour, puis dans la rue. Accompagné par la rythmique rapide de la chanson « A Town Called Malice » de The Jam, l'action s'offre comme un ensemble instable de gestes de rage et de souffrance qui se métamorphosent en brèves impulsions chorégraphiques. Fragments de claquettes, descentes d'escaliers, sauts, course désespérée qui s'achève en fracas contre une palissade. Billy semble être en transe et impossible à arrêter. Il transforme sa rage en véritable pas de danse. On peut ici mettre ses impulsions chorégraphiques en relation avec les pas de claquettes de Gene Kelly dans le film Chantons sous la pluie qui, à la différence de Billy, n'exprime pas sa colère mais sa joie. Si le film de Stéphane Daldry est parfois associé à une comédie musicale, il reste tout de même assez éloigné dans la forme de ce genre. Les comédies musicales respectent généralement un système dit d'embrayage et de débrayage. Une scène débute de manière naturaliste, puis se métamorphose plus ou moins brusquement en un moment chanté et dansé. Un moment susceptible d'intervenir au détour des actions les plus banales.
But Moses, he knows his toes aren't roses, as Moses supposes his toes to be.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
Hoop-de-doodle-doodle.
Moses supposes his toes are roses, but Moses supposes erroneously.
Mais dans Billy Elliot, ce n'est pas le cas. La danse est d'emblée associée à une situation ordinaire et n'intervient jamais comme un mode expressif inattendu. Les trois principales scènes dansées, celle avec Madame Wilkinson, celle dans la cour de la maison puis dans la rue, et celle face à son père, sont relativement courtes et correspondent au réalisme des situations. On trouve dans le film plusieurs séquences de montage alterné, essentiellement dans des moments narratifs importants. Le montage alterné se caractérise par l'aller-retour entre deux ou plusieurs actions, généralement simultanées, qui se déroulent dans des lieux différents. Dans Billy Elliot, le montage alterné est la figure de l'entrelacement entre les deux phases du récit, les mineurs et la danse. Par exemple, à la 23e minute, le film propose un montage alterné entre Billy à son cours de danse et le père de Billy à une manifestation. Un montage alterné qui met en relation deux formes de protestation différentes, la manifestation pour son père et la danse pour Billy. Un autre exemple, on découvre Billy chez lui, devant le miroir de sa salle de bain, et en cours avec Madame Wilkinson, essayant d'exécuter les mêmes postures. Les deux situations ne sont donc pas simultanées, mais elles se relayent à travers des raccords de postures et de mouvements pour créer des continuités entre les actions. Le montage alterné est alors l'expression de l'acharnement de Billy. On ne se repère plus dans la durée des événements, mais on comprend, par la continuité artificielle des actions, la continuité du désir du jeune garçon.
La boxe est un sport de combat. Il est certes facile d'affirmer des évidences pareilles, cependant, la danse en devient tout aussi guerrière que la boxe dans ce film. Par son choix de vie, par son art corporel, Billy affronte sa famille ainsi que le regard de la société. Vous l'aurez compris, le film se permet de dénoncer des idées préconçues sur les activités liées au genre. Le père de Billy force son fils à pratiquer la boxe, sport qui rentre selon lui dans l'activité normale d'un jeune garçon de son âge, le meilleur moyen de développer son corps. Le film nous expose intelligemment un personnage, reflet de la vie majoritaire de la société, prônant une masculinité sans faille, sans une once d'émotion féminine. Quoi de mieux que la danse classique pour créer un contraste entre l'envie d'un petit garçon et la vie hyper masculiniste de notre société. Le film dépasse les frontières du temps, vu que cette critique ultra forte d'une vision préconçue du genre qui peut simplement s'illustrer par le débat bleu et quel garçon, rose et quelle fille, est toujours d'actualité, le combat a même pris en ampleur. Au final, le combat de Billy avec la danse fait écho à un autre combat dans le film. L'action se déroule en 1984. C'est la grève des ouvriers britanniques contre le gouvernement de Margaret Thatcher. Évidemment que l'action a été placée dans une famille ouvrière pour créer ce cocon viril, que nous n'aurions peut-être pas eu avec une population plus riche, plus cultivée. Cependant, le film se déroule dans un contexte politique très fort. Cette fameuse grève des mineurs britanniques, se déroulant en 1984 à 1985, n'apporte pas grand-chose au contenu narratif. Cependant, la toile de fond politique du film en est pleinement nourrie. La famille de Billy change de point de vue sur la danse, laisse le jeune garçon poursuivre ses rêves. Rêves qui se réaliseront à la fin du film, après une ellipse de plusieurs années, quand on retrouve Billy pour une entrée sur scène spectaculaire, après avoir réussi son concours. Le film est une parabole. La famille de Billy représente la population ouvrière qui, malgré son manque de culture, s'éduque sur des sujets aussi complexes que la tolérance vis-à-vis des genres, du prétendu genre des activités, ainsi que de la notion de paternité. C'est bien par la danse que le film permet cette dénonciation, faisant du film une fable politique.
C'était un podcast sur la danse dans la fiction.
Give me some nice straight lines, please. Go.